Bonjour. Cette dernière leçon autour de la question « Y a-t-il eu une littérature juridique romaine ?» porte sur les juristes enseignants et se termine par le juriste juriste. Le père Soucieux, dont dans notre première conférence nous avons écouté la conversation qu'il a amorcée avec ses voisins pendant les festins chez Trimalcion, voulait initier son enfant à la connaissance du droit en lui achetant quelques livres, qu'il appelle « livres rubriqués ». Les brefs propos de ces personnages de Pétron nous ont appris que, à l'époque de Néron, la littérature juridique était reconnue comme un genre avec ses propres caractéristiques, à commencer par les éléments paratextuels, qu'elle circulait sur le marché et qu'elle commençait à se répandre comme un outil d'apprentissage en dehors des classes supérieures. Le père, dont Pétron nous révèle les programmes éducatifs, n'étant en effet qu'un modeste revendeur de vêtements usagés. Nous ne savons pas quel livre juridique un père aurait acheté pour son enfant. Le libraire n'aurait pas pu lui offrir un manuel scolaire. Pour autant que nous sachions, un tel manuel n'avait pas encore été écrit à l'époque de Néron. Les autres disciplines techniques, en revanche, avaient été transposées en latin depuis longtemps en des traités bien structurés, à l'instar des technaï grecs. D'ici peu, même l'arpentage, un sujet typiquement romain, allait jouir de plusieurs expositions systématiques. Seul le droit resta longuement à l'écart de cette courante qui poussait les disciplines à se transformer en art, en traité systématique. La raison en est que, contrairement aux savoirs tels que la rhétorique ou l'architecture ou la médecine, à Rome, la littérature juridique, rédigée à la première personne par les protagonistes, était le document direct de l'élaboration de la discipline dans son devenir, le lieu même où prenaient naissance les contenus que la littérature juridique avait aussi la tâche de diffuser, et à laquelle était reconnu aussi un certain degré d'autorité normative. En bref, le juriste écrivain n'est pas un érudit qui transcrit et systématise à partir d'autres livres, mais il est un juriste qui fait les droits en tant qu'il en écrit. Lorsqu'ils firent leur apparition à peu près aux alentours de 160 après Jésus-Christ, les instituts de Gaius, en tant que manuel scolaire, étaient donc un texte excentrique dans le panorama de la jurisprudence. Mais les instituts de Gaius possèdent aussi une autre force qui les distingue de toutes les autres œuvres de la jurisprudence, sans que l'interprète moderne puisse ni s'opposer ni s'en attribuer le mérite. C'est la force qui vient de leur intégrité. Les instituts sont le seul texte d'un juriste romain qui nous soit parvenu presque complet, grâce à un palimpseste découvert à Véron par Niebuhr en 1816 et publié par Goetschen en 1820. L'effet que, en revanche, on ne connaît presque rien de l'auteur ajoute en touche de mystère. Tout ce que l'on peut dire à partir des références qu'on trouve dans ses ouvrages, c'est que Gaius doit être né sous Adrien et que sa maturité se place sous Antonin le Pieux et Marc Aurèle, bref, qu'il a vécu entre 120 et 180 après Jésus-Christ. Dans les décennies qui suivirent la découverte du palimpseste, comme le préconisa tout de suite Savigny, la connaissance du droit romain connut une profonde transformation. À mon avis, l'histoire de l'historiographie juridique du 19e et du 20e siècle pourrait en grande partie être décrite comme une prise de conscience des signaux venant de la nouvelle source, parfois captés immédiatement, d'autres fois pouvant rester ensommeillés pendant des décennies, jusqu'à ce que, tout au coup, il nous laisse ouvrir les yeux. Il suffit d'indiquer quelques domaines étant ressortis plus révolutionnés, en commençant par les procès privés romains, jusqu'à la découverte de Gaius, la différence entre les actions de la loi et les formules n'était pas claire à un degré qu'aujourd'hui nous paraît presque inconcevable. et ce furent les instituts de Gaius, certes, à rendre possible aussi la restauration de l'édictum du prêteur par Rudolf et Lenel, parce qu'il suppléait les mots mêmes des formules grâce auxquelles on pouvait enfin déchiffrer la trame des commentaires à l'édit gardés dans le digeste, et qui avaient demeuré presque incompréhensibles jusqu'alors. Même la Palingenisia, la reconstitution des écrits des juristes romains à partir des fragments du digeste, accompli par Lenel en 1888, après plusieurs tentatives qui ont été récemment étudiées par Jean-Louis Ferrari, peut être lu comme l'inspiration à atteindre par toutes les œuvres des autres juristes cette intégrité que la découverte du manuscrit véronèse avait redonnée aux instituts de Gaius. Enfin, les instituts qui dévoilent une couche très ancienne du formalisme juridique ont beaucoup contribué à attirer l'attention vers les droits romains archaïques, qui a suscité surtout ici en France une tradition d'études de Lévi-Bruhl à Magdelin à notre collègue Michel Imbert. Si, comme documents de droit romain plus anciens, les instituts ont éclairci beaucoup de points obscurs, la découverte a posé en revanche des questions très difficiles, justement sur le plan littéraire qui est le nôtre. La question centrale est la suivante, un peu paradoxale. Lorsqu'on possède enfin, par entier, une œuvre d'un juriste romain, que pouvons-nous en dire? Je crois que dénouer rapidement l'histoire des études puisse, comme toujours, nous aider à nous libérer des préjugés qui ont exercé une fâcheuse influence sur les réponses qui ont été données à cette question. L'histoire des études au sujet de Gaius peut être condensée en quatre mots: la découverte d'un manuscrit et la disparition d'un écrivain. Cette disparition a été signalée déjà en 1899, quand Nicolas Herzen, le petit-fils du grand écrivain et romancier russe Alexandre Herzen, écrivit « Autour de la personnalité de Gaius, presque tout est problématique et débattu. Son nom, son origine, sa position officielle. Et à ce jour, on est même parvenu à nier son existence ou encore attribuer son identité à une autre personne. Je vais tenter de montrer comment on est arrivé à ce point et comment le tout a continué jusqu'à presque nos jours. » Ça a été la réponse aux besoins d'historicisation suscité par les manuscrits de Véron, une tâche, celui-ci, que pendant plus d'un siècle, les historiens du droit ont malheureusement résolu en multipliant l'objet historique, soit auteur et texte, comme si pour expliquer quelque chose, il fallait parler toujours d'autre chose. Puis, au milieu du XXe siècle, une brèche s'ouvre finalement qui dirige la recherche dans une nouvelle direction, qui reste pourtant encore à parcourir jusqu'au bout. Donc, lorsqu'on possède enfin par entier une œuvre d'un juriste romain, que pouvons-nous en dire? Ce fut Mommsen parmi les premiers à se poser la question, en cheminant en 1855 l'hypothèse que Gaius était un juriste de province, car il n'est connu que par son prénomen, il n'est guère cité par d'autres juristes, il est soucieux du droit des communautés étrangères, il a recours à des citations grecques, il explique l'édit provincial, et comme à certains points Gaius mentionne Troas comme la première d'une série de villes douées de Ius Italicum, cela conduit Mommsen à penser que Gaius avait vécu à Troyes. Plus tard, l'analyse linguistique menée par un élève de Wölfflin, Wilhelm Kalb, va ajouter à l'identikythe provincial l'individuation des grécismes dans la langue de Gaius. La plupart de ces remarques ne tiennent pas, comme Kunkel et Nelson en particulier ont démontré. Cependant, ça nous intéresse pas le résultat, mais la démarche accomplie tout d'abord par Mommsen, soit de tirer des instituts un certain nombre de traits qui sont ensuite rassemblés dans une image, une projection, celui du juriste provincial, comme si l'acte d'historicisation était accompli grâce à cette projection. À côté des instituts, un nouvel objet va se créer, ayant pour tâche de dire quelque chose sur les instituts mêmes. En fait, savoir si Gaius était ou n'était pas un provincial, ça n'ajoute rien à la compréhension de ses œuvres. Beaucoup d'autres juristes n'étaient-ils pas d'origine provinciale? Surtout, cette démarche détourne la discussion du texte et la centre ailleurs, et donc Naturellement, les épigons de Mommsen se sont efforcés de préciser davantage. Gaius n'était pas de Troie, mais de Constantinople, voire de Bithynie, ou mieux encore, il venait de l'Illyrie. Étant chercheur roumain, a évidemment été heureux de pouvoir l'attribuer à l'ancienne Dacie. La position plus naïvement éloquente est celle de ceux qui, en croyant donner épreuve de sagesse, déclare encore aujourd'hui que l'origine provinciale de Gaius n'est peut-être pas démontrée, mais exclue non plus. C'est ainsi qu'on reconnaît qu'il s'agit d'un faux problème, sans s'en rendre compte et sans savoir, sans libérer non plus. Je tiens également à souligner que grâce à cette opération, Mommsen se place au principe, à l'origine, aussi de l'étude biographique des juristes romains, qui a connu au XXe siècle un grand succès. On ne songe pas à cette, je dirais, position de protoseurites de Mommsen aussi dans ce champ. Une deuxième démarche très influente est prise en 1869 par un autre grand savant, Heinrich Dernburg. Cette fois-ci, l'opération ne concerne pas Gaius, mais les textes des instituts, avec néanmoins des conséquences déconstructives. Dernburg a fait valoir l'hypothèse qu'il s'agissait d'une transcription de l'enseignement oral de Gaius. Cette genèse expliquerait l'existence d'expressions ciblées en public d'étudiants, certaines répétitions étant fonctionnelles à une meilleure compréhension, et surtout, cette origine expliquerait pourquoi les instituts n'offrent pas une analyse complète de tous les sujets. On sent ici le jugement du grand juriste que Dernburg était, en train de mesurer la distance entre les traités allemands de Pandechtenrecht de son époque et le mince manuel de Gaius. Le jugement de Dernburg a du moins le mérite de relier, d'essayer de relier le texte à sa fonction, d'après le genre littéraire auquel il appartient. Cependant, avoir soutenu qu'il s'agissait d'un brouillon de leçons et pas d'un texte conçu ad hoc, ouvrit une brèche dans l'identité de l'œuvre, en donnant libre cours à toutes les variantes possibles, à partir de l'hypothèse que ce n'était pas un texte approuvé par Gaius, mais des notes volées par des étudiants. C'est à peu près le même chemin que Quintilien nous décrit dans l'avant-propos de son ouvrage. À la fin du siècle 19e, l'interprétation par voie de multiplication marche donc à pleine capacité et vise principalement l'auteur, Gaius, qui voit multiplier ses identités. Trois savants, Leonard Kalb, Longinescu, indépendamment l'un de l'autre, proposent que Gaius n'est personne d'autre que Gaius Cassius Longinus, le chef de l'école qui porte son nom et le juriste dont Tacite nous a laissé le discours cruel qui confirme la torture à mort des 400 esclaves du propriétaire du préfet de la ville qui avaient été tués. Selon cette hypothèse, les instituts présentent des omissions qui pourraient s'expliquer si l'on pense à une rédaction datée du 1er siècle après Jésus-Christ, dans le cadre justement de l'école de Cassius. Il faut remarquer comment l'argument change son cible. Les omissions que Dernburg cherchait à expliquer tout en suivant la logique scolaire de l'œuvre, maintenant servent à emporter l'œuvre à son auteur. Après avoir pris la masque de Cassius, Gaius est devenu ensuite à la fois un affranchi de Cassius même, ou le juriste Lelius Felix, ou alors Pomponius. Et quand Richard Samter, en 1908, avance l'idée que Gaius n'est que le pseudonyme d'une femme, il l'accompagna à son hypothèse avec ses propos, j'espère ironiques, étant donné qu'il se propage si de nombreuses hypothèses au sujet de Gaius, sans fondement, pourquoi ne pas proposer aussi qu'il était une femme? Il ne vaut pas la peine de discuter toutes ces hypothèses. Je dirais tout simplement que ce sont des moyens de détourner les problèmes, même si Gaius était Lelius Felix. Qu'échangerait-il? La tâche de comprendre son œuvre resterait intacte. Cloner, ça n'équivaut pas à historiciser. Dans un article paru en 1910 dans l'encyclopédie Pauli Wieczowa, le philologue Bernard Kübler introduit une multiplication supplémentaire de l'objet historique. Après avoir correctement constaté qu'on ne connaît aucun écrit antérieur à Gaius ayant utilisé le même système d'exposition, Kübler conclut néanmoins qu'on ne peut pas attribuer à Gaius le mérite d'avoir conçu le système et qu'il y avait eu un ouvrage perdu précédent. Quelle est la motivation? Puisque Gaius n'avait pas été un esprit créateur. Encore une fois, on sépare l'auteur de son œuvre et ensuite on lit l'œuvre à la lumière de cette image a prioriste. Ceux qui accomplissent une telle opération ont peut-être la sensation de rendre plus complexe et graduelle la genèse des instituts, comme si pour faire de l'histoire, il soit suffisant de délayer les phénomènes tout au long de l'axe du temps. C'est une façon de faire l'histoire qu'on trouve très souvent. Rendre les choses complexes comme si ça était la tâche de l'historien. Lorsque Kübler introduisait le pré-Gaius, en même temps, Hoffmann présentait l'hypothèse d'un prédigeste. Symétriquement, Peiss et Lambert imaginaient les 12 tables comme une invention postérieure au 5e siècle. C'est comme si, afin d'expliquer un objet, on examinait son ombre. Mais on n'avait pas encore atteint la dernière étape de la déconstruction, celle pouvant investir le texte. Ce fut le résultat d'une critique menée par plusieurs savants dans le cadre du soi-disant interpolationnisme. On a cru pouvoir démontrer que le texte des instituts n'était que la somme de plusieurs couches à partir d'un noyau du 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'à la dernière couche écrite dans l'Antiquité tardive. La dissection des textes, dont la critique à propos de Gaius est un excellent exemple, a eu une conséquence plus générale et plus grave. Je le dis à mes amis collègues romanistes, l'affrontement du droit romain en tant que phénomène culturel de valeur actuelle pendant le XXe siècle. Car la transmission d'un patrimoine culturel repose en fait sur la persistance dans le temps de l'autorité des textes sur lesquels il s'appuie. L'interpolationnisme a tout fait pour nier le caractère exemplaire de la littérature juridique romaine. Déjà en 1927, cependant, trois fragments des Instituts de Gaius furent trouvés à Auxerre et publiés par Hunt. Écrits en majuscules cursives, il s'agit probablement d'une copie réalisée par un fonctionnaire romain pour son propre usage. L'intérêt de cet exemplaire réside dans le fait que, pour des raisons paléographiques, il doit être daté autour de 200 après Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il est chronologiquement très proche de la rédaction originaire des instituts. Dans la littérature latine, peut-être seulement un papyrus du poète Cornelius Gallus est tout aussi proche de l'original. Les implications sont au moins deux. Avant tout, c'est évidemment un signe de la propagation rapide des instituts. Ensuite, la découverte du papyrus d'Oxyrhynchus servit à mettre un frein à la dissolution moderne du texte de Gaius, car on comprit que le palimpseste véronèse du 5e ou du 6e siècle, qui était tout à fait correspondant dans le lieu commun, ne contient aucun ajout ou modification par rapport à la version circulante autour de 200. 6 ans après, un nouveau témoin datant d'environ 500 après Jésus-Christ, publié comme papyrus de la société italienne, a confirmé la stabilité du texte de Gaius. Ces nouveaux fragments de parchemin publiés par Aranjo Ruiz aurait pu ouvrir un autre domaine important à la recherche, qui est resté malheureusement quasi inexploré et donc je souhaiterais pouvoir m'occuper en futur. On en parlait avec Jean-Michel Carrier. Le parchemin est pourvu d'annotations interlinéaires, notamment des traductions de termes latins et en grec, et en outre des plus larges gloses marginales, avec des citations aussi d'autres juristes. C'est un morceau d'une mosaïque, s'ajoutant à beaucoup d'autres, qui prouve la circulation, l'utilisation des œuvres jurisprudentielles à la fin de la période ancienne, et donc l'autre niveau gardé par la culture juridique de cette époque, qui continuait à trouver dans les écrits des juristes son centre de gravité et dont on voit le beau reflet dans les constitutions impériales. Je ne m'attarderai pas sur la réaction des historiens de droit face à la découverte de deux papyrus en 1927 à 1933. Il s'agit d'une tentative géniale, quoique vaine, de concilier le vieux paradigme en faillite, celui de l'interpolationnisme, avec les nouvelles données empiriques. Le résultat est la Textstufenforschung, qui a été menée à son but par Viaker, mais qui était pourtant encore dans l'esprit de diviser pour comprendre, multiplier pour expliquer. Mais le temps était mûr pour un revirement dans la recherche sur Gaius, dans lequel les métiers plus importants reviennent aux les mérites plus importants reviennent aux philologues, ce qui démontre que l'étude des juristes d'un point de vue littéraire est une perspective fructueuse. Dans son livre sorti en 1960, Manfred Fuhrmann offrit les clés pour comprendre finalement les instituts en eux-mêmes, Das Systematische Lehrbuch. Il parcourt une série de manuels grecs hellénistiques, à commencer par la Technae Rhetoricae d'Anaximène du 4e siècle avant Jésus-Christ, puis se tourne vers Rome et examine les manuels systématiques parus dans chaque discipline à partir de la Rhetorica Arrhenius d'Udo Inventione. Pour terminer justement avec les instituts de Gaius, le droit étant, comme nous le savons, la dernière des matières à avoir fait les grands sauts. Fuhrmann démontre que tous ces manuels se fondent sur un ensemble bien structuré d'opérations logiques, c'est-à-dire sur la division d'une classe en genre et en espèces et sur la définition. Ils ont aussi recours à certains moyens expressifs aussi typiques, telles la différence et le parallélisme. La démonstration de Fuhrmann a une implication décisive. Il n'est pas concevable que la mise en œuvre des instituts était réalisée en plusieurs étapes et par plusieurs générations, précisément parce qu'il est le résultat d'une série coordonnée d'opérations, l'une reliée à l'autre. Les instituts de Gaius sont le produit unitaire d'une seule personne qui a su appliquer au droit cet ensemble de moyens logico-formels et stylistiques. Donc, presque un siècle et demi après la découverte du palimpseste de Vérone, l'œuvre de Gaius a reconquis son identité, c'est-à-dire a commencé à être regardée comme un texte, comme une unité. C'est un champ qui peut être cultivé davantage, surtout car Fuhrmann nous exhorte à ne pas nous borner à étudier les grandes partitions face auxquelles généralement s'arrête le regard des interprètes, dont l'attention est aussi saisie par le fait que ces grandes partitions ont trouvé leur voie pour entrer dans les codifications modernes, telles la division en personne, chose, action. Il faut par contre chercher ailleurs, dans le pli du texte. Et poursuivant cette perspective de lecture, il me semble d'avoir identifié un schéma que Fuhrmann n'avait pas décrit et que je souhaiterais vous soumettre cet après-midi car il offre un exemple concret du travail littéraire de Gaius. Je propose de nommer ce schéma selon le texte de Rufinianus, c'est-à-dire selon une topique rhétorique. Ce schéma, on peut le nommer antithèse ou contre-règle, que l'on rencontre lorsque Gaius indique un cas qui devait être soumis à la discipline juridique commune, mais il en fait exception. À ce cas, Gaius en oppose symétriquement un autre qui d'ordinaire devait être exclu de la règle et qui est au contraire soumis. Si après, juste un exemple, le texte de Gaius 2, 62. Il arrive parfois, dit Gaius, que celui qui est le propriétaire n'a pas le pouvoir de disposer du bien. Et celui qui n'est pas le propriétaire, il peut en disposer. En fait, la loi Julia interdit à l'époux de disposer des biens d'auto sans le consentement de sa femme, bien qu'il soit à lui. En revanche, l'agna curateur du furieux peut aliéner un bien possédé par les furieux, bien que ce bien ne soit pas à lui. Gaius nous présente donc, d'une part, l'époux propriétaire qui ne peut pas aliéner, et d'autre part, le curateur du furieux qui dispose des biens qui ne sont pas à lui. Cette symétrie est également suggéré sur les plans stylistiques par le parallélisme de membres finaux, isocolones, qui se termine aussi de façon égale par homéoptotos, c'est-à-dire quam vis ipsius sit, quam vis eius eares non sit. On trouve beaucoup d'antithèses de ce genre. Je crois que tout lecteur des instituts peut maintenant s'en souvenir. J'en ai indiqué quelques-unes pour votre lecture en bas de l'image. Et retrouver ce genre d'opération signifie aller sous la surface du manuel afin de le comprendre mieux, sans arrêter au niveau des grandes partitions. Mais il faudrait alors aller encore au-delà, les chercher dans des autres ouvrages de Gaius. Ce même schéma de l'antithèse revient, ou mieux, c'est le fil conducteur d'un autre écrit de Gaius, le livre de Casibus, dont quelques passages nous ont été conservés par le digeste, comme le texte que je vous présente, 35 en 107. Il arrive quelquefois, dit Gaius, qu'un legs conditionnel soit regardé comme un legs pur, c'est-à-dire pas soumis à une condition. Tel est le legs fait sous la même condition par laquelle l'héritier a été institué. Inversement, un legs sans condition devient quelquefois conditionnel. Par exemple, si le testateur, par une nouvelle disposition, ôte ses legs au légataire sous une certaine condition, parce qu'il est censé le lui laisser sous la condition contraire. Il ne faut pas s'attarder sur les fonds. Ici, l'antithèse est visiblement instaurée entre un legs conditionnel qui, dans certaines circonstances, fonctionne comme s'il ne l'était pas, et inversement, un legs sans condition fonctionnant comme s'il était sous condition. Ce qui est frappant, c'est que parmi les sept fragments du Liber Singularis de Casibus gardés dans le digeste, eh bien, cinq sont construits sous la forme d'antithèses implicites ou explicites. Voilà, je pense que lorsque nous découvrons un schéma comme celui-ci, partagé entre deux œuvres du même auteur, il nous semble d'avoir retrouvé la signature de Gaius. Ce procédé en chiasme, à quoi sert-il? C'est évidemment à rendre plus évident et mémorisable les deux cas, grâce notamment à leur caractère spéculaire. C'est comme si Gaius prenait les objets juridiques et les faisait tourner et nous les montrait sous des angles différents. Ça va de même avec l'histoire qu'il utilise maintes fois dans les instituts, comme nous l'avons vu dans la conférence précédente. Le but de son manuel est de mettre de manière précise et tangible sous les yeux du lecteur les figures juridiques et surtout les rationes decidendi, en transformant l'élève en témoin de la vie des institutions sur la base de laquelle il devrait former son propre sens juridique. Mais nous n'aurions pas à rechercher dans le pli de son texte l'identité autoriale de Gaius, l'esprit unitaire de son ouvrage, si nous pourrions écouter sa voix nous décelant ses intentions d'écrivain. Nous aimerons donc que les instituts commençassent par une préface qui est le lieu du texte auquel revient d'habitude la charge de conférer une note personnelle à la voix didactique. On sait bien à quel point la préface de Vitruve ou des Institutiones Oratorie de Quintilien nous renseigne sur l'œuvre et sur leur auteur. Mais notre désir d'écouter la voix de Gaius est déçu, le manuscrit des Instituts n'ayant pas de préface. Une déception d'autant plus forte que le digeste nous a conservé l'avant-propos d'un autre de ses œuvres, les commentaires aux 12 tables, que nous avons lus la semaine dernière, et ironiquement, Gaius il dit que commencer un livre sans préface, c'est comme s'asseoir à la table sans s'être au préalable lavé ses mains. Comme l'expérience de ces quatre conférences au Collège de France va sans doute devenir pour moi un beau souvenir, et justement pour cela, elle va me laisser au même temps en vide, comme toute chose qui se termine, dans cet état de transition, je veux dédier rapidement la toute dernière partie de ma leçon à discuter d'un texte apparemment disparu et pourtant qui a toujours été sous nos yeux. Il faut rappeler qu'afin de composer ces instituts, Justinien, de son propre aveu, appuyé principalement les deux ouvrages élémentaires de Gaius, c'est-à-dire justement les Instituts et en outre ses Res Quotidiane. La comparaison, nous voyons ici la déclaration de Justinien même qui certifie la provenance de textes des Instituts de Justinien même, principalement des deux ouvrages scolaires de Gaius. Le mérite, la comparaison avec le manuscrit de Vérone nous permet, bien entendu, d'identifier sans faute les morceaux tirés des Instituts de Gaius. En revanche, lorsqu'on lit une page du manuel de Justinien, d'où émane le goût typique du style de Gaius, sans qu'on puisse en retrouver la correspondance dans le manuscrit de Véron, la conclusion va de soi, elle a été puisée dans l'autre manuel de Gaius, les Res Quotidiane. Le mérite d'avoir accompli cette déconstruction du manuel de Justinien revient à Contardo Ferrini, un savant de l'Université de Pavie, une opération quasi inverse à la palingénésie réalisée en même temps et avec une égale habileté par Lenel. Il est surprenant qu'une des plus belles pépites sorties de la mine creusée par Ferrini ait été négligée, voire oubliée. Juste au début des Instituts de Justinien, on rencontre quelques lignes qui évoquent d'une façon incontournable le style de Gaius. Je traduis. Au moment de commencer à exposer les droits du peuple romain, il me semble qu'on peut l'enseigner de la façon plus efficace si l'on expose d'abord chaque notion par une interprétation légère et simple, et seulement ensuite par une interprétation plus détaillée et complète. Sinon, si dès le début nous surchargions l'esprit à un corps ignorant et faible de l'étudiant par une multitude et une variété de notions, il arrivera l'un de deux, ou que nous en ferons un déserteur des études, ou seulement avec une grande fatigue, et souvent aussi en se défiant de pouvoir y arriver, ce qui surtout éloigne les jeunes, il parviendra plus tard à faire ce qu'il aurait fait en moins de temps, sans grande peine et sans aucune défiance. En dépit de sa brièveté, il s'agit d'une véritable préface. Nous en examinerons le contenu dans quelques instants. D'abord, il convient d'expliquer pourquoi la paternité de ces lignes doit être attribuée à Gaius. Elles sont parsemées d'inimitables marques stylistiques. À celles que Ferrini avait signalées, nous pouvons en ajouter plusieurs d'autres, aussi grâce aux possibilités offertes par la numérisation des sources. Tout d'abord, on remarquera l'expression « iura populi romani ». Que nous retrouverons dans le texte célèbre, l'ouverture célèbre des Instituts de Gaius, et par conséquent, dans une position très proche au début, constant autem iura populi romani, etc. Quoique cela paraisse surprenant, il y a une seule autre occurrence de cette expression iura populi romani dans toute la littérature latine, à savoir dans Cicéron, dans la première des Philippiques. Et il y a une expression pareille, mais pas tout à fait la même, dans la légende de l'Aureus d'Octavien de 28 avant Jésus-Christ. Gaius est parmi tous les écrivains latins celui qui utilise plus souvent la rare expression statim ab initio. Il l'utilise 8 fois, il y en a en tout deux seules autres occurrences, une dans Suétone et une dans Sorinus. Et surtout, il est le seul parmi les juristes à l'employer. Pour en finir, l'expression disjonctive très particulière « duorum alterum, aut, aut » est utilisée dans toute la littérature latine une seule autre fois, et justement par Gaius, dans son livre sur l'édit provincial, dans le digeste, 35-2, 73 ans. Le texte parle d'une créance dont la condition se trouve suspendue au moment de la mort du créancier, qui pose donc des questions à propos du calcul de la loi Falsidia. Je n'entre pas dans les détails. Gaius écrit « On peut se tirer d'affaire en faisant donner par des quotients réciproques en sorte qu'il arrive l'un de deux, ou que la créance peut être regardée comme pure et simple, ou comme n'étant pas due. Et c'est la seule autre occurrence de cette construction de la prose latine. J'avoue que j'éprouve une certaine inquiétude face aux techniques stylométriques. Cela dit, la fréquence et la précision des marques stylistiques sont si hautes dans ces peu lignes que la paternité ne peut guère faire de doute. Mais l'identification extérieure devient une certitude intime quand on se tourne au contenu et on considère la structure thématique du texte. Gaius y exprime un conseil pédagogique limpide, à savoir que la manière la plus efficace pour enseigner le droit est graduelle. Il emploie la métaphore du chemin, métaphore qui traverse avec cohérence tout l'avant-propos par les mots via, avertere, ducere, perducere. C'est une métaphore très commune, bien entendu, mais que Gaius aime appliquer à l'enseignement, car il l'emploie aussi ailleurs, précisément dans l'avant-propos du commentaire aux 12 tables. Le maître doit guider ses élèves d'abord à la voie plus simple et seulement après les conduire à la plus difficile et longue. L'étudiant ne sera pas découragé, ne perdra pas son confiance en soi. Le résultat de ce parcours, à difficulté croissante, sera plus rapide et moins fatigant. Quelqu'un, en lisant le mot de Gaius, se souviendra peut-être du père de Cripa Petron au festin chez Trimalcion, qui redoutait que son enfant ne se décourageât face à la lecture des livres rubriqués. Gaius propose donc une véritable méthode d'enseignement du droit, ce qui est clairement une révolution par rapport au passé. Ce qui est le plus frappant, c'est que ce programme pédagogique ne demeure pas une simple intention, ces mots se connectant très précisément avec des expressions, des conseils qu'on retrouve dans ces instituts. De temps en temps, Gaius prévient le lecteur que son exposé sera bref, qu'il allait expliquer le sujet ailleurs d'une manière plus large. Il s'agit des passages bien connus qui, à la lumière de la préface, recouvrent tout leur sens. Par exemple, dans le troisième livre, après avoir traité les lois sur l'héritage introduites par la loi Papia, il écrit ces mots. Gaius, que nous voyons ici, Gaius avait composé un commentaire sur la Lex Iulia et Papia en 15 livres, donc véritablement détaillé. Dans les manuels, il se borne à aborder seulement les points importants à maîtriser, presque comme dans un sommaire, et il renvoie l'élève à l'explication plus large. Et remarquons l'expression « diligentior interpretatio » qui est la même qu'on rencontre dans la préface. Un autre passage s'impose à la lecture, Gaius en 188, où l'on traite de divers types de tutelles. On voit clairement ici comment la juriste agit en tant qu'enseignant. En présence d'une question controversée, c'est la même page, on voit qu'en présence d'une question controversée est encore ouverte, il se borne à tracer la carte du terrain disputé, les tutelles se réduisent à 5 genres selon Mucius, il dit, à 3 selon Servius, à 2 selon Labéon, tandis que d'autres estimaient qu'il n'y avait pas de catégorie unifiant supérieure, mais que chaque type de tutelle était un genre à soi. Voilà la différence que Gaius établit entre juriste enseignant et juriste qui se jette dans l'arène des opinions avec ses pairs. Gaius ne veut pas alourdir les élèves avec des discussions trop minutieuses. J'oserais affirmer que lorsque dans la préface, Gaius affirme de vouloir éviter la multitudo ac varietas rerum, par le mot varietas, il fait allusion justement aux divergences d'opinion. Mais ça ne dépend pas de sa faiblesse intellectuelle face au sujet, car au contraire, il l'a traité largement. Notez de nouveau le lexique « diligentius interpretatio longa » qui évoque encore la métaphore de la voix qu'on lit dans l'avant-propos. À ce stade, un soupçon prend corps. Il faut se demander si peut-être la préface n'a pas une signification plus étendue. Si elle n'est pas l'annonce d'un entier programme d'enseignement. Car nous savons que Gaius a écrit plusieurs autres ouvrages, outre ces deux manuels scolaires, couvrant les principaux champs du droit romain. le jus civile par son commentaire à Quintus Mucius, et par un traité sur les obligations verbales, le droit honoraire par ses commentaires aux édits, les lois sur le mariage et la succession par son commentaire à la loi Iulia Papia et au Senatus Consult, on peut donc avancer l'hypothèse que ces œuvres étaient écrites dans le cadre d'un programme pédagogique à deux phases, d'abord institutionnel et puis avancé, justement le programme dont Gaius parle dans sa préface. Il s'agirait d'une vraie révolution, la transformation du droit en encyclopédie. Je ne voudrais pas aller au-delà de ce qui demeure une simple hypothèse. Je tiens simplement à souligner que le plan des études juridiques qui était en fonction avant la réforme de Justinien, et dont l'empereur nous informe, décèle une profonde ressemblance avec les programmes gaïens, car il débute justement la première année par les instituts de Gaius lui-même, et se poursuit par l'étude des livres, des droits civils et des droits prétoriens, quoique dans un ordre différent. De Gaius étaient conçus dans leur totalité comme des outils pour l'enseignement à différents niveaux, mais semble suggérer aussi, par les constats que nous venons de faire, que dans le livre de Casibus, Gaius utilise le même schéma de l'antithèse qui caractérise également les instituts. Donc, j'espère que ce voyage autour d'un test caché ou invisible ait contribué du moins à nous rapprocher d'une lecture unitaire de l'œuvre de Gaius, à ne pas la faire éclater en morceaux, à lui redonner une identité. Avant de l'abandonner, il faut effleurer un point délicat. Je dis que les compilateurs des instituts de Justinien ont dépouillé les deux manuels de Gaius. Duquel des deux ont-ils pris la préface? La réponse doit rester ouverte. Cependant, nous possédons le manuscrit véronèse des instituts de Gaius, qui commence sans préambule. Il est donc plus probable que ces lignes viennent de Res Quotidiane. Les deux manuels sont d'ailleurs très proches, voire identique dans certains passages qu'on peut comparer. L'exposé des Res Quotidiane est en principe un peu plus développé, comme le montre le fait qu'il s'agit de 7 livres par rapport aux 4 des instituts. Probablement, les instituts en sont une version abrégée par son auteur, et ça expliquerait aussi que Gaius en aurait éliminé l'avant-propos. En tout cas, le choix entre les deux œuvres n'est pas si important, car si la préface se trouvait dans les Res Quotidiane, son programme qui proclame la brièveté s'applique a fortiori aux instituts qui sont davantage synthétiques. Mais laissons arriver à leur conclusion, et avant de terminer, je remercie vivement le Collège de France John Scheid pour cette invitation et l'auditoire qui a prêté aux juristes romains une attention et un écoute fidèle dont je vous suis reconnaissante. Je vous ai présenté 4 portraits des juristes. Le dernier devrait être celui du juriste-juriste. Et ceux qui ont suivi notre parcours ont certes compris que cette dernière figure n'est pas séparée des autres, mais en est plutôt la somme et de bien d'autres encore. J'ai proposé, surtout par des connexions entre des sources de nature diverses, de vous montrer l'épaisseur de leur écriture, que la transmission lamentable des textes risque souvent de cacher. L'analyse des textes nous a montré que le discours juridique était imprégné de philosophie, de l'histoire, du réalisme expressif, mais aussi que chaque apport était transfiguré par le travail de mise en forme et entré à faire partie d'un champ intellectuel à part et unitaire. En bref, la pensée juridique transforme les éléments culturels dont elle se nourrit, chaque opération étant soumise au but d'argumenter les solutions à partir des choix de valeurs. Cette élaboration ne devient visible pour nous que dans le texte. Et c'était donc seulement, on n'avait aucune autre ambition que d'être une invitation à la lecture de cette littérature invisible, mes conférences, car comme tous les grands écrivains, les juristes romains personnifient le miracle fatigant de la transformation de la réalité par le langage. Je vous remercie.